Mandarbe s'impatientait de plus en plus, mais son maître n'eut aucun mal à le contenir.
« Tu as fait un long chemin depuis Champ des Mondes. »
L'âne sourit, un effet gâché par son regard toujours aussi froid.
« Tu domines Mirel et Nissao désormais. Ne leur permets plus de te tenir tête. C'est toi qui commandes, mère. Il ne faut pas baisser ta garde. »
L'âne inclina la tête, fit avancer Mandarbe au pas jusqu'à ce qu'il soit assez loin pour que la poussière n'affecte pas Egwen, puis il lança les talons au galop. Alors que le champion fonçait vers le sud, Egwen le regarda, la bouche fermée sur tout ce qu'elle aurait voulu dire. L'âne avait tout remarqué, tandis qu'il s'entraînait à l'épée, et il avait tiré les conclusions correctes. Y compris sur des points qu'il n'aurait pas pu étudier avant de la voir avec l'étole. Nineveh allait devoir la jouer fine, avec sa tendance à toujours sous-estimer les hommes.
« Au moins, il ne leur arrivera rien de grave, »
dit-elle tout haut. L'âne venait de disparaître, après avoir franchi le sommet d'une colline. S'il y avait eu de réels dangers à Eboudar, Elaine ou Nineveh en auraient fait mention. Les trois amis ne se voyaient pas très souvent, et Gwen avait tant à faire. Mais elles avaient trouvé un moyen, en cas d'urgence, de se laisser des messages dans la version onirique de Salidar. Un vent brûlant souleva soudain un rideau de poussière. Se couvrant le nez et la bouche avec son étole, Egwen battit en retraite dans le portail et se retrouva sur son bac imaginaire. Durant l'ennuyeux voyage de retour, la chère d'Amerline se demanda si elle avait bien fait d'envoyer l'âne à Eboudar et si elle avait eu raison de ne pas prévenir Nineveh.
« Ce qui est fait »,
se répéta-t-elle. Mais ça ne l'aida pas beaucoup. Lorsqu'elle fut de retour au sommet de la colline, près des deux grands chênes, elle vit Kavar Hachami, homme au nez crochu et à la moustache grisonnante en forme de corne à l'envers, c'était le troisième champion de Mirel, avait rejoint les autres. Avec leur efficacité naturelle, les champions avaient déjà démonté et plié les tentes. Affolés comme des fourmis, Nicolas et Arina s'affairaient à transporter dans la charrette tous les objets éparpillés dans le camp, des couvertures au bouilloir en passant par les marmites. Elles ne traînaient vraiment pas, mais leur attention était pourtant à demi fixée sur Shuan et les deux autres sœurs. Oreilles grandes ouvertes, les champions, eux, se concentraient sur les Aes Sedai. Et Gwen se demanda aussitôt qui était en train de chauffer qui.
« Ne pas me parler sur ce ton, Shuan !»
finissait de dire Mirel. Assez fort pour être entendu dans tout le camp, et assez froidement pour compenser les excès calorifères du climat. Les bras croisés, la sœur se dressait sur ses ergots comme un coq de combat.
« Tu m'entends? Je te l'interdis! As-tu perdu tout sens commun, Shuan ?»
intervint Nissao. Serrant dans ses poings le devant de sa robe, une vaine tentative pour ne pas trembler, elle parlait d'un ton enflammé qui n'avait rien à envier, en intensité, à la glace de Mirel.
« Si tu as oublié les bases de la politesse, on peut te rafraîchir la mémoire. »
Les poings sur les hanches, Shuan secouait la tête pour foudroyer alternativement du regard les deux furies.
« Je suis seulement... »
Quand elle aperçut Egwen, le soulagement de Shuan s'épanouit sur son visage, comme une fleur éclos au printemps.
« Mère !»
Presque une imploration.
« Mère, je leur exposais les pénitences possibles. »
Prenant une profonde inspiration, Shuan se ressaisit.
Le hall devra les inventer au fur et à mesure, j'imagine. Mais la première pourrait bien être de forcer ses deux sœurs à transmettre leur champion à d'autres, puisqu'elles semblent apprécier ça.
Mirel ferma les yeux, et Nissao tourna la tête pour regarder les trois champions de Mirel et le sien. Alors que rien sur son visage ne trahissait de la détresse, Sarine tituba soudain, puis il fit mine d'avancer vers son Aes Sedai. Mais elle leva une main pour l'en empêcher. Comme Egwen avec Mogedienne, lorsqu'elle portait la dame, un champion pouvait sentir la présence, la douleur, la peur et les angoisses de son Aes Sedai. Du coup, rien d'étonnant à ce que ces quatre champions-là soient tendus comme des arcs et prêts à bondir. Sans savoir pour quelle raison, ils sentaient que Mirel et Nissao étaient au bord du désespoir. Soit exactement là où Egwen avait voulu les conduire. Une partie de son plan qu'elle n'aimait pas. Les intrigues et les manœuvres étaient comme un jeu, mais ça...
« Je fais ce que je dois »,
pensa-t-elle. Une façon de s'endurcir? Une excuse pour ce qu'elle allait faire? Difficile à dire.
Shuan, renvoie Areina et Nicolas au camp.
Ce que ces femmes ne verraient pas, elles ne pourraient pas le raconter.
On ne peut pas les laisser déblatérer à leur aise, donc informe-les bien du sort qui les attend si elles récidivent. Dis-leur que la chère d'Amirline, d'humeur clémente, leur offre une autre chance, mais que c'est la dernière. Je crois que c'est dans mes cordes,
répondit Shuan. Relevant ses jupes, elle s'en alla à grandes enjambées. Peu de gens étaient capables de faire ça aussi bien qu'elle. Mais dans le cas présent, elle semblait surtout pressée de s'éloigner de Mirel et de Nissao.
« Mère, »
dit Nissao, choisissant soigneusement ses mots.
« Avant de partir, tu as dit quelque chose qui laissait penser Eh bien, qu'il y avait un moyen pour nous d'éviter de ne pas...
Nisao regarda de nouveau Sarin. Mirel aurait été l'incarnation même de l'impassibilité des Aes Sedai. N'étaient ses mains croisées si violemment que les phalanges de ses doigts en blanchissaient. Et Gwen fit signe aux deux sœurs d'attendre. Se détournant de la charrette, Nicolas et Areina virent Siwan approcher et... elles se pétrifièrent. Une réaction assez logique, puisque l'ancienne chair d'un Merlin leur fonçait dessus avec la fureur d'un taureau en pleine charge. Areina jeta un coup d'œil alentour, en quête d'une issue de secours. Mais elle n'eut pas le temps de se mettre en mouvement. Bondissant sur ses proies, Siwan les saisit chacune par une oreille. Ce qu'elle dit n'arriva pas à celle des Gwen, mais Areina cessa de lutter pour se dégager. Sa main resta accrochée au poignet de Siwan, certes, pourtant, on eût dit qu'elle s'en savait surtout pour tenir debout. Voyant l'horreur qui s'affichait sur le visage de Nicolas, Egwen se demanda si Siwan n'allait pas un peu trop loin. Probablement pas dans les circonstances présentes. Après tout, les deux femmes s'en tireraient sans punition. Un instant, Egwen regretta de ne pas avoir un moyen de mettre leur talent de fouine à profit. Bien contrôlé, un don pareil valait de l'or. Quoi que Siwan n'aurait dit, quant à l'achat, les deux femmes se tournèrent vers la chair d'Amirline et s'inclinèrent très bas. Le visage de Nicolas frôla la poussière, et sa compagne faillit carrément tomber à genoux. Puis Siwan claqua des doigts. Ses deux victimes se relevèrent vivement et coururent détacher deux chevaux de trait au long poil. Montant accru, elles disparurent si vite du camp qu'on aurait pu se demander s'ils ne leur avaient pas poussé des ailes.
« Elles ne parleront pas, même dans leur sommeil, »
dit Siwan quand elle eut rejoint les trois autres sœurs.
« Je suis encore capable de donner une bonne leçon à une novice et à une fripouille. »
Durant son compte rendu, l'ancienne chair d'Amerline ne regarda pas une seule fois Mirel ou Nisao. Étouffant un soupir, Egwen se tourna vers les deux sœurs. Elle allait devoir faire quelque chose au sujet de Siwan, mais les priorités d'abord.
« C'est très simple, »
dit-elle aux deux femmes, qui la regardaient d'un air méfiant.
« Sans ma protection, vous perdrez sûrement vos champions. Et avant que le hall en ait fini avec vous, je crains que vous regrettiez de ne pas avoir été écorchée vivante. Il faudra des années avant que vous puissiez marcher la tête haute. » Et sans que des sœurs surveillent vos moindres faits et gestes. Mais pourquoi voudrais-je vous soustraire à la justice? Ce serait une lourde responsabilité, qui me vaudrait une obligation, car vous pourriez récidiver, voire commettre de pires crimes.
Bien qu'il ne s'agisse pas exactement du Jieto, l'influence des matriarches était évidente dans le raisonnement des Gwen.
Si j'assume cette responsabilité, vous aurez une obligation envers moi. Je devrais vous faire aveuglément confiance. Et je ne vois qu'un moyen d'obtenir ce résultat.
Ça, c'était l'influence de Faolaine et de Théodrine.
« Vous devez me jurer allégeance. »
Les deux sœurs avaient écouté, tendues, se demandant où Egwen voulait en venir. À l'évidence, elles ne s'attendaient pas à ça. Nisao en était bouche bée, et Mirel semblait sonner comme si elle avait reçu un coup de masse entre les deux yeux.
« Impossible !»
bredouilla Mirel.
« Aucune sœur n'a jamais... Aucune chair d'Amirline ne... Tu ne peux pas croire que... La ferme, Mirel !»
s'écria Nisao.
« Tout est ta faute !» Je n'aurais jamais dû t'écouter. Mais inutile de pleurer sur le lait renversé.
Elle dévisagea Egwen et soupira.
Mère, tu es une jeune femme dangereuse. Extrêmement dangereuse, même. Avant d'en avoir terminé, tu risques de désunir encore plus la tour blanche. Si j'en étais sûr, et si j'avais le courage de faire mon devoir au mépris du danger.
Nisao s'agenouilla et embrassa la bague au serpent d'Egwen.
Au nom de la lumière, et par mon espoir de salut et de résurrection,
le serment différa un peu de celui de Faolaine et Théodrine, mais il n'eut rien à lui envier en matière de sincérité. Bien au contraire. Selon les trois serments, une Aes Sedai ne pouvait pas prononcer des vœux qu'elle n'entendait pas respecter. Bien entendu, les sœurs noires avaient dû trouver un moyen de contourner cette obligation, puisqu'elles passaient leur temps à mentir. Si une de ces femmes appartenait à la Jeanne Noire, eh bien, il faudrait aviser plus tard. Les yeux exorbités, la bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'un son en sorte, Siwan ressemblait à un gros poisson échoué sur la rive. Mirel tenta encore de protester, mais Egwen tendit simplement la main qui portait la bague au serpent, et la sœur tomba à genoux, à croire que ses jambes se dérobaient. Après avoir prononcé le serment d'un ton amer, elle releva la tête.
« Mère, tu viens de faire ce qui n'a jamais été fait. C'est toujours dangereux. Ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière. Mes filles, voici mon premier ordre. Ne dites à personne que Siwan est bien autre chose que ce qu'elle semble être. Et tiens, voici le second. Obéissez aux ordres qu'elle vous donnera, comme s'il venait de moi. »
Les deux sœurs tournèrent la tête vers l'ancienne chair d'Amirline.
« À tes ordres, mère, »
murmurèrent-elles avec un bel ensemble. Siouan parut sur le point de défaillir. Et elle semblait toujours sous le choc quand Egwene et elle atteignirent la route et firent prendre la direction de l'est à leur monture, vers le camp des Aes Sedai et celui de Garrett Bryne. Alors que le soleil restait à une distance raisonnable de son zénith, Egwene songea que cette demi-matinée avait été plus mouvementée que bien des journées entières, voire des semaines.
« Mirel a raison, »
marmonna Siouan. Suivant gracieusement le rythme de Daishar, la monture de l'ancienne chère d'Amerlin semblait ravie d'être laissée à elle-même, puisque sa cavalière avait l'esprit ailleurs. Dans ces conditions, Siouan Sanche parvenait presque à passer pour une cavalière compétente.
« Un serment d'allégeance. Personne n'a jamais fait ça. Personne. On ne trouve même pas une allusion dans les archives secrètes. Et forcer ces deux femmes à m'obéir. Tu ne te contentes pas de changer certaines choses, Egwene. Tu reconstruis le bateau en pleine tempête. Avec toi, tout change. Et cette Nicolas, de mon temps, à la simple idée de faire chanter une Aes Sedai, une novice serait oubliée sous elle. Ce n'était pas le premier essai de Nicolas et d'Arina. »
Egwene raconta son histoire avec le moins de mots possible. Normalement, Siouan aurait dû exploser de colère en entendant de telles choses.
« Je crains que nos petites aventurières aient très bientôt un accident. »
se contenta-t-elle de dire très calmement.
« Non !»
cria Egwene en tirant sur ses rênes. Surprise, Siouan laissa faire 5 ou 6 pas de plus à sa jument avant de reprendre le contrôle. Une fois à l'arrêt, elle se tourna vers Egwene avec sur le visage une patience forcée à la Lelaine, mais en encore plus glaçant.
« Mère, elles tiennent une massue au-dessus de ta tête. Et si elles sont assez intelligentes pour s'en apercevoir, eh bien, même si le hall ne t'inflige pas une pénitence, tout espoir de contrôler les représentantes s'éloignera de toi comme une voile à l'horizon. »
Siouan secoua la tête, dégoûtée.
« Quand je vous ai envoyé en mission toutes les trois, je savais que vous vous feriez passer pour des sœurs à un moment ou à un autre. C'était inévitable. Mais comment Elaine et Nineveh ont-elles pu être assez stupides pour traîner avec elles des témoins de leur transgression? Si cette histoire se sait, ces deux filles mériteront amplement ce qui leur tombera sur la tête. Mais il ne faut pas que ça se sache. Siouan, il n'arrivera rien à Nicolas et à Areina. Si j'étais d'accord pour qu'on les tue, à cause de ce qu'elles ont découvert, jusqu'où irais-je ensuite? Romanda et Lelaine? Parce qu'elles ne sont pas d'accord avec moi? Et qui encore? Où s'arrêterait le massacre? »
D'une certaine façon, Egwene se dégoûtait. Naguère, elle n'aurait pas compris ce que voulait dire Siouan. Savoir était toujours préférable à être dans l'ignorance. Mais parfois, cette dernière était beaucoup plus confortable.
Je refuse qu'un jour de victoire soit gâché par une conversation sur des meurtres,
dit Egwene en talonnant Daishar.
Siouan, Nisao et Mirel n'ont pas été les premières à me jurer allégeance. Ce matin, Faolaine et Théodrin m'attendaient.
Siouan colla sa grosse jument à Daishar et tendit l'oreille. Les révélations d'Egwene ne calmèrent pas son inquiétude au sujet de Nicolas et d'Areina. Mais les plans que lui exposa la jeune femme firent briller une petite flamme jubilatoire dans ses yeux. Dès l'arrivée au camp, elle s'empressa d'aller remplir sa nouvelle mission. Annoncer à Shériam et aux autres amis de Mirel qu'elles étaient attendues à midi dans le bureau de la chaire d'Amerlin. Sans mentir, elle put même garantir à ses femmes qu'on ne leur demanderait rien qui n'ait jamais été fait jusque-là. Malgré ses déclarations victorieuses, Egwene n'était pas d'une humeur rayonnante. En se dirigeant vers sa tente bureau, elle entendit à peine les bénédictions qu'on lui lançait et répondit d'un vague geste de la main aux gens qui lui en demandaient. Même si elle ne pouvait pas couvrir 2 meurtres, Nicolas et Areina restaient un problème. Et il faudrait les garder à l'œil.
Vivrais-je un jour en un lieu où les problèmes ne s'accumulent pas?
Un endroit où chaque victoire ne serait pas systématiquement compensée par une nouvelle menace? Une fois sous sa tente bureau, Egwene céda à son accablement. Sa tête lui faisant un mal de chien, elle commença à se demander si ce bureau n'était pas maudit, au point qu'il vaille mieux pour elle ne plus y entrer. Sur la table de travail, 2 feuilles de parchemin soigneusement pliées et fermées par un seau de cire arboraient la mention « scellée à la flamme ». Pour toute autre personne que la chère d'Amerlin, briser ses sceaux était une transgression aussi grave que de s'en prendre physiquement à la dirigeante suprême. Et Gwen, présentement, regretta d'être obligée de les briser. Dans son esprit, il n'y avait aucun doute sur l'identité des rédactrices de ces notes. Hélas, elle ne se trompait pas. Romanda proposait, non, en réalité exigeait, que la chère d'Amerlin produise un édit scellé au hall et connu des seules représentantes. Les sœurs devaient être convoquées l'une après l'autre, celles qui refusaient étant coupées de la source puis privées de liberté, comme il convenait pour tout membre possible de l'âge noir. La raison de cette convocation restait assez vague, mais Lelaine avait laissé échapper un gros indice le matin même. Son message refaisait le coup des « conseils d'une mère », comme si tout ça était avant tout pour le bien des Gwen et de la communauté. L'édit qu'elle exigeait devait être simplement scellé à la bague. Toutes les sœurs pouvaient en être informées, et dans ce cas particulier, devaient l'être.
Toute mention de l'âge à noir devait être proscrite, comme étant un facteur de discorde entre les Aes Sedai. Un crime grave, selon les lois de la tour, et très sévèrement puni. Avec un soupir, Egwene se laissa tomber sur sa chaise pliante. Comme de juste, les pieds fléchirent, et elle faillit se retrouver les fesses sur le tapis. Elle pouvait esquiver comme une anguille pour gagner du temps, mais ses adversaires reviendraient à la charge avec ses absurdités. Tôt ou tard, l'une d'elles présenterait sa modeste proposition au hall, et le renard serait introduit dans le poulailler. Était-elle aveugle? Un facteur de discorde? Avec la motion de l'Elaine, toutes les sœurs seraient convaincues qu'il existait bien un âge à noir, et que leur chère d'Amirlin en était membre. Peu après, toutes se précipiteraient dans les jupes d'Elaïda, à Tarvalon. Quant à Romanda, voulait-elle déclencher une émeute? Selon les archives secrètes, il y en avait eu 6 dans l'histoire. Une demi-douzaine en plus de 3000 ans, ça ne faisait pas beaucoup. Mais chaque fois, la chère d'Amirlin avait dû démissionner, et le hall de la tour avec elle. Romanda le savait, et l'Elaine aussi. Siégeant au hall depuis 40 ans, elle avait eu accès à toutes les chroniques secrètes. Avant de se retirer à la campagne, comme beaucoup de sœurs blanchies sous le harnais, Romanda avait représenté l'âge jaune au hall pendant si longtemps qu'on lui prêtait autant de pouvoir que toutes les chères d'Amerline qu'elle avait vues défiler. Avoir été nommée représentante une deuxième fois était un exploit inédit. Mais cette femme n'était pas du genre à laisser le pouvoir entre d'autres mains que les siennes, quand elle en avait la possibilité. Non, ces deux sœurs n'étaient pas aveugles. Elles mouraient de peur. Comme Egwene et comme tout le monde. Et quand elles étaient effrayées, les Aes Sedai elles-mêmes ne réfléchissaient plus très clairement. Egwene replia les deux feuilles qu'elle aurait volontiers déchirées et piétinées, puis elle porta les mains à ses tempes. Sa maudite tête menaçait d'exploser.
« Puis-je entrer, mère ?»
demanda Halima Saranoff, en avançant sans attendre de réponse. La façon de marcher de cette femme attirait les regards des hommes entre 12 ans et 2 jours après le décès. Et même si elle avait porté une épaisse robe de bure, ça n'aurait rien changé. Son visage encadré de longs cheveux noirs, brillant comme s'il les lavait chaque matin à l'eau de pluie, suffisait à le garantir.
« Delana Sedai, pense que tu devrais avoir connaissance de la proposition qu'elle présentera au hall ce matin. »
Ainsi, le hall se réunissait sans même informer la chaire d'Amerline. Bien sûr, Egwene s'était absentée, mais la coutume exigeait que la dirigeante suprême soit avertie avant que le hall puisse se réunir. Sauf quand l'ordre du jour était de la renverser, bien sûr. À cet instant, Egwene aurait presque souhaité que ce soit le cas. À croire que la feuille de parchemin qu'Halima venait de poser sur la table était un serpent venimeux. Egwene constata qu'il n'y avait pas de sceau. En ce qui concernait Delana, la plus récente novice pouvait prendre connaissance du texte. Sans nul doute, il s'agissait de la proclamation au sujet d'Elaïda, accusée d'être un suppôt des ténèbres. Moins grave que les âneries de Romanda et l'Elaine, certes. Mais si elle avait appris que les représentantes se battaient à main nue, Egwene n'aurait pas bronché dans l'état où elle était.
Halima, j'aurais préféré que tu sois rentrée chez toi après la mort de Cabriana.
Ou au moins que Delana ait eu le bon sens de cacher les informations de cette femme au hall, et même à la chaire d'Amerlin, au lieu de les transmettre à toutes les sœurs qui lui tombaient sous la main.
Je ne pouvais pas agir ainsi, mère.
Les yeux d'Halima semblaient briller de défi, mais il ne fallait pas s'y fier, car elle n'avait que 2 façons de regarder les gens. La première, directe, qui les provoquait, et la seconde, de biais, qui les séduisait. Cette particularité était la cause de bien des malentendus.
Comment aurais-je pu, avec les révélations de Cabriana Sedai au sujet de Laïda et de ses plans? Cabriana était mon amie, mère, la tienne et celle de tous tes adversaires de Laïda. Quel choix avais-je? La lumière soit remerciée qu'elle ait mentionné Salidar. Ainsi j'ai su où aller.
Posant les mains sur ses hanches, une taille aussi fine que celle qu'Egwene s'était imaginée dans le monde des rêves, Halima inclina la tête sur un côté et étudia attentivement son interlocutrice.
« Tu as encore mal au crâne, c'est ça ? Cabriana avait ce genre de douleur, si forte que cela tétanisait jusqu'aux orteils. Pour supporter le contact de ses vêtements, elle devait prendre des bains très chauds. Parfois, il fallait des jours. Si je n'étais pas venu, tu aurais pu en arriver là. »
Se plaçant derrière Egwene, Halima entreprit de lui masser le cuir chevelu. Cette femme avait des doigts en or qui faisaient fondre la douleur.
Ces migraines sont trop fréquentes pour que tu demandes à chaque fois à une sœur de te guérir. Mais c'est juste une affaire de tension. Je le sens très bien. Oui, la guérison pour un bobo, trop souvent.
Murmura Egwene. Malgré ce qu'on disait d'Halima, elle l'aimait bien, et pas seulement à cause de ses massages. Franche et directe, elle restait une femme de la campagne, malgré tous les efforts qu'elle avait fournis pour adopter une partie des manières de la ville. Du coup, son respect pour la chaire d'Amirlin était matinée d'une familiarité que Gwen trouvait rafraîchissante. Parfois déconcertante, certes, mais toujours stimulante. Bref, une sorte de jumelle de Chessa. Au détail près que celle-ci n'oubliait en aucune circonstance son statut de domestique. Halima, elle, ne faisait jamais montre d'obséquiosité. Pourtant, Egwene aurait réellement préféré qu'elle rentre chez elle après la chute de cheval mortel de Cabriana. Il aurait été utile que les sœurs prennent pour argent comptant la thèse de Cabriana, à savoir qu'Elaïda avait l'intention de calmer une moitié d'entre elles et de briser l'autre. Mais tout le monde jurait qu'Halima en rajoutait sur ce thème. En revanche, la Jeanne Noire faisait recette. Des femmes censées n'avoir peur de rien tremblaient face à un ordre dont elles niaient encore l'existence quelques mois plus tôt. Comment chasser les suppôts des ténèbres sans terroriser les autres sœurs et les inciter à s'enfuir en criant? Comment éviter une débandade tôt ou tard? Oui, comment?
Pense à te relaxer, mère. Détends ton visage, ton cou, tes épaules.
La voix d'Halima avait quelque chose d'hypnotique. Un bourdonnement qui semblait caresser toutes les parties du corps d'Egwene qui devait à tout prix se détendre. Beaucoup de femmes n'aimaient pas Halima à cause de son physique, parce qu'elle semblait avoir été modelée par un homme particulièrement lubrique. Bien entendu, elle l'accusait d'aguicher tous les mâles qui croisaient son chemin. Egwene n'aurait pas approuvé un tel comportement, mais Halima reconnaissait qu'elle aimait regarder les hommes. Si ses pires ennemis ne prétendaient jamais qu'elle allait plus loin que la provocation, cette seule idée l'indignait. Halima n'était pas une écervelée, ainsi qu'Egwene avait pu le constater lors de leur première conversation, le lendemain de l'évasion de Loghain, le jour où avaient commencé les migraines. Au fond, c'était la même chose que pour Mary. Halima n'avait choisi ni son visage, ni sa façon d'être. À cause de la forme de sa bouche, son sourire paraissait provoquant, alors qu'elle faisait le même à une femme ou à un enfant. Était-ce sa faute si les gens pensaient qu'elle aguichait, alors qu'elle se contentait de regarder? De plus, elle n'avait parlé des migraines à personne. Dans le cas contraire, des sœurs jaunes auraient fait nuit et jour le siège de la tante d'Egwene. Une preuve d'amitié, voire de loyauté. Egwene baissa les yeux sur le document abandonné sur la table, et son esprit se mit à dériver, sous la douce pression des mains d'Halima. Des torches prêtes à être jetées dans un grenier à foin. 10 jours avant la frontière du royaume d'Andorre, sauf si le seigneur Brian acceptait d'accélérer le rythme sans savoir pourquoi. Pas d'opposition à redouter avant. Ces torches pouvaient-elles rester où elles étaient pendant 10 jours? Le port du Nord et le port du Sud, les clés de la conquête de Tarvalon. Sauf à accepter la suggestion de Siouan, comment contrôler Nicolas et Arina? Il fallait prendre des mesures pour éprouver la loyauté de toutes les sœurs, avant d'entrer en Andorre. Egwene avait le don de travailler avec les métaux et les minerais, mais dans ce contexte, ça ne lui servirait pas à grand-chose. Nicolas et Arina, la Jeanne Noire.
Tu te tends de nouveau, mère. Cesse de t'inquiéter au sujet du hall.
Halima marqua une pause, puis recommença à masser.
Ce sera encore mieux ce soir, quand tu auras pris un bain. Je pourrai te masser les épaules, le dos, partout. Nous n'avons pas encore essayé ça. Tu es raide comme un bout de bois, alors que tu devrais être assez souple pour te plier en deux, en arrière, et mettre ta tête entre tes chevilles. L'esprit et le corps. L'un ne peut pas se relaxer sans l'autre. Abandonne-toi entre mes mains.
Egwene dérivait dans les limbes du sommeil. Le vrai sommeil, pas celui d'une femme qui marche dans les rêves. Depuis quand n'avait-elle pas dormi pour de bon? Quand la proposition de Delana serait connue, à savoir très bientôt, le camp entrerait en ébullition. Et peu après, elle allait dire à Romanda et à Lelaine qu'elle n'avait aucune intention de promulguer leurs bêtises. Mais il y avait encore une bonne chose à attendre aujourd'hui. Une raison de rester éveillée.
« Ce sera bien, oui. »
murmura Egwene, sans penser uniquement au massage promis par Halima. Un jour, elle s'était jurée de forcer Shiryam à en rabattre. On y était enfin. Au moins, elle commençait à être la vraie dirigeante suprême. Une chair d'Amirline à la main de fer.
« Oui, ce sera très bien. »